patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand, bonjour à tous nos auditeurs de spiritualité et patrimoine. Nous allons poursuivre notre promenade autour et dans Rocamadour.
Avec notre guide Gilles Lade.
Avec Gilles Lade, bien sûr. Mais une fortification vient d'apparaître sur la crête. On est entré dans Rocamadour comme par mégarde. Très vite, toute une cité s'esquisse dans le fil de la pique. On a souvent écrit et dit, au point d'en faire un cliché, que Rocamadour se déploie sur quatre plans. Le ruisseau, les maisons, le sanctuaire, le château. Strates auxquelles il faut ajouter le socle de la falaise et les multiples passerelles de sentiers et des escaliers. Mais la perspective d'ensemble est insoupçonnable d'ici. Prenons donc le parti de nous approcher davantage encore de l'Alzou et de son cours de pierre, tantôt sèche, tantôt jonchée de flaques. Un ultime détour nous sollicite sur la droite, alors que domine la tour sombre du moulin de Roquefraîche. À quelques centaines de mètres, nous entrons sous un porche où murmure un sarcophage d'eau, la fontaine de Bertiole. Revenant sur nos pas, nous longeons bientôt les plus anciennes maisons de Rocamadour. Celle-là même qui, depuis le belvédère de la route de Couzou, nous avait frappé par leur frêle hauteur, leur profil de femme du Moyen-Âge portant coiffe. Ces maisons, comme beaucoup d'autres à Rocamadour, sont érigées selon le principe de la colonne à console, véritable pilier intérieur qui porte les poutres maîtresses sur lesquelles s'articulent les étages. Puis le val de l'Alzou s'élargit aux dimensions du vaste et vert terrain contemplé au départ. Le pré de Pâques, vous vous souvenez, on l'a déjà parcouru. C'est de là qu'un large lacet nous ramène à gauche, face à l'entrée est de Rocamadour. La porte du figuier, qui remonterait au XIIIe siècle. S'ouvre alors la cité de pierre, un calcaire clair à dominante blanche, mais nullement crayeuse, un calcaire puissant, éclatant l'hiver à contre-brume, à contre-grisaille. L'on remarque l'insertion des maisons dans la roche du versant. Les gens du Moyen-Âge l'ont si profondément creusé d'alvéoles que les demeures successives s'y sont invariablement installées. Mais, et c'est une surprise, la grande rue qui scande les portes fortifiées partiellement détruites offre l'aspect d'un bourg quercinois du XIXe siècle. L'histoire, avec un grand H, l'évolution des mentalités, l'économie ont fait leur œuvre, ici aussi. De temps à autre, le passé fracture la régularité des apparences. Un fronton, des armoiries sur un linteau, des fondations visibles en contrebas, ou bien une demeure surgit du passé, comme cette singulière maison de grès rose qui, avec ses croisillons de pierre, ses salles voûtées, sa toiture de loze, semble n'avoir survécu que grâce à son originalité et à sa situation en retrait. L'on sait aussi, pour le percevoir furtivement ou l'avoir entendu dire, que les murs latéraux des maisons sont ceux du Moyen-Âge et que des citernes et des colonnes subsistent derrière les façades récentes. À vrai dire, l'on garde toujours en vue le grand rocher et la cité religieuse. Tous les plans s'y déploient dans l'harmonie de la perspective oblique. Bientôt, l'on passera sous le sanctuaire et ce qui apparaissait massif de loin deviendra un pur élancement. Et même, en renversant la tête depuis le trottoir opposé à l'hôtel de ville, l'on apercevra presque à la verticale la chapelle Sainte-Anne, retour du vertige, de la violence géographique. Cheminant, l'on parvient au pied du grand escalier, tandis que grandit l'emprise de la falaise. Elle se recourbe sur nous comme une vague. Plus haut encore, l'étrave du rempart indique, dans le bleu du dernier étage du site, une invariable direction. Mais ici, à quelques mètres de la première marche, l'on imagine, à partir de quelques indices, le bâtiment dit « Château de la Carreta », 15e siècle. Haut de près de 10 étages et orné à ses 4 angles de cheminée à l'anglaise qui enjambait l'escalier des sanctuaires et contrôlait l'accès à la cité religieuse. Cet escalier, qui appelle autant qu'il domine, ouvre une perspective de défi, de dépassement, mais d'abord d'acceptation. 216 marches en plusieurs volets. Le premier élan des degrés, à peu près 100, droit dans le flanc de la falaise, donne le sentiment d'escalader le rocher. La foule médiévale, grave et gaie, turbulente et bigarrée, montée à genoux, implorante. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que cela, j'ai entendu des personnes qui avaient monté ces marches à genoux.
Et oui.
Si le sanctuaire a connu plusieurs périodes de déclin du XVe au XVIIIe siècle, la piété ne s'est nullement éteinte et la recherche de l'épreuve physique de la montée, y compris dans l'agenouillement marche à marche, a persisté au XIXe et XXe siècle, vous voyez bien. C'est lors des grands pardons, chaque fois que la nativité de Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, coïncide avec le jeudi de la fête Dieu, environ une fois par siècle. 1546, 1666, 1734, 1899, 1943, que la montée devient saisissante, toutes ces marches sont occupées par la foule, par le silence bruissant des souffles. Ces jubilés, animés d'une ferveur, d'un enthousiasme particulier. Ainsi, en 1666, la foule est compacte jusqu'à 4 km de Rocamadour, 100 000 pèlerins entourant l'évêque Alain de Solmignac, notre évêque de Cahors. 200 caussadés viennent à pied en 3 jours avec leur curé. En 1899, une procession partie de Cahors accompagnant toutes les reliques du Lot, dont celle de la Sainte Coiffe, qui est à l'évêché, hein, à la basilique, à la cathédrale Saint-Étienne aujourd'hui, se déploie sur des kilomètres et des kilomètres. Un témoin écrit même, à l'occasion de ce jubilé, « Nous eûmes, du sommet des remparts, l'illusion qu'une mer vert émeraude, de laquelle s'échappait mille feux. Ainsi, trouvèrent amplifiés dans le site tourmenté de Rocamadour les rassemblements médiévaux de la paix de Dieu. Le vide grandit sous le pèlerin, progressant entre la roche et la grande rue. Il oublie ce jour et cette heure précis. Il pense à tel fait, telle peine, une espérance, l'espérance. Il porte sa frêle foi, à moins qu'elle ne grandisse d'un coup et ne fasse de lui une autre personne. Résonance illimitée entre la pierre et soi, entre l'appui le plus ferme, le plus immédiat et les grands espaces intérieurs où le vertige n'existe pas, pour peu que persiste et brille, comme une lampe sans pareil, un cœur de certitude. Cœur parfois bousculé de doute, sans que s'arrête la marche et que chacun de ses pas, sans que cesse de bruire des cantiques, les prières, les paroles jadis glanées, le cœur meurtri, la vie rompue mais tremblante et vivace en esprit, peine de qui marche et monte, s'absente et contemple, se tait et continue. Le grand escalier oblique à gauche et se donne le répit de la place de Saint-Hal, Saint-Hal, nom occitan des Sportels, insigne de pèlerin attesté à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle et réalisé en plomb, argent doré, bronze, cuivre, on l'est fixé sur son vêtement. Je devrais épeler comment s'écrit Saint-Hal, S-E-N-H-A-L-S. On les considérait donc comme porteuses de vertus spirituelles du lieu saint. Elles prouvent que des pèlerinages ont été effectués depuis la Lituanie. Ainsi, dans toute l'Europe et en particulier sur un axe baltique-atlantique, l'on portait cet insigne sur lequel Notre-Dame, la tête nimbée, est représentée siégeant de face, sa main gauche tenant le sceptre fleur d'Élysée, la main droite de l'enfant assis sur le genou gauche de la Vierge, élevée pour bénir et montrer en même temps sa mère. Après être passé sous le porche du palais des évêques de Tulle, l'escalier se redresse encore jusqu'à opposer aux marcheurs une pente véritablement abrupte. Le souffle court, l'effort, d'effort et d'émotion, le pèlerin fait ses premiers pas sur le parvis. L'impression est celle d'un carré en plein air, d'un cloître cantonné de murailles aux histoires différentes. Souvent, le fidèle se souvient d'être venu ici enfant. A-t-il un souvenir précis, comme Saint-Louis qui était passé avec sa maman et ses frères? Scrutant sa mémoire, sans doute, dégagera-t-il quelques éléments, l'atmosphère de la chapelle miraculeuse, ou bien l'arrivée dans les chênes là-haut, ou peut-être encore le babil des corneilles dans la falaise? C'est sans doute la muraille que l'on considère en premier, ce surplomb de roches virant de l'ocre au beige foncé, du gris blanc à l'ombre soutenue. Car il domine à la fois protection et menace. En 1479, il écrasa, hélas, en partie la chapelle. Il nous rappelle qu'il faisait de cette plateforme, 72 mètres sur 36 mètres, un abri sous roche exceptionnel pour les hommes préhistoriques. Et la vaste grotte en dessous était un autre élément essentiel pour ces mêmes peuples, qu'il s'agisse de leur existence quotidienne ou de l'exercice d'un culte. Or, cette masse aux couleurs vivantes s'anime d'une colonie d'oiseaux assez rares en Quercy, chouka, corneille, qui, pour être de la même famille que les grands corbeaux, déploient dans leurs évolutions élégantes un langage musical et discret, peut-être pas toujours, au charme apaisant. C'est une véritable compagnie pour la pensée que ces presque trilles, ces volettements brefs, ces complicités d'aller et venu au ras des arbustes du haut. Ramage de créatures qui ont trouvé leur site, organisent dans ces franges de roches offertes à la clarté quelques concerts évocateurs de félicité. L'enfant peut-être eut la grâce un jour de prêter l'oreille à ce langage d'intelligence. Je veux dire, où la vie universelle semble se comprendre elle-même et se donner à aimer. L'enfant avait oublié, et l'adulte plus tard, et combien d'autres sans doute, que ce parvis est suspendu à plus de 50 mètres de haut. Une couronne de pierre efface le vide et le vertige. La chapelle de la Vierge Noire, l'église Saint-Sauveur, l'église Saint-Amadour, les chapelles Sainte-Anne, Saint-Blaise, Saint-Jean-Baptiste, la chapelle Saint-Michel, la plus haute située. Théâtre qui tient à représenter une architecture théologique en l'orientant vers le salut des âmes gardées par Saint-Michel depuis l'oratoire de la Tour Porche. C'est dans cette même pensée que les fidèles avaient choisi de se mettre sous la protection de l'archange en se faisant ensevelir dans le cimetière du parvis. Cloître donc, ouvert au seul espace, au ciel qui, même l'hiver, condense la réverbération de la pierre, asseyons-nous un peu sur un de ces bancs adossés aux chapelles et pensons que la pique est dans notre dos. Levons nos yeux vers les nuages, nous sommes dès lors comme emportés en aventure dans le roulis du monde et de son cours. Je pense que beaucoup de nos auditeurs s'y retrouveront.
Chantal, je vous propose d'ailleurs de continuer la semaine prochaine.
Oui.
À la semaine prochaine, Chantal.
Merci beaucoup, nous allons faire une petite pause d'une semaine.
Voilà.
Je vous remercie, Armand, et bonne semaine à vous tous qui nous écoutez.
C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. Une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.